Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Marcel Ngombo Mbala. Okapi.
Semaine à toutes et à tous, et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Quels sont les avantages de la dépénalisation des délits de presse en RDC? Nous en parlons dans ce numéro avec nos invités. Nous avons déjà en ligne le professeur Emmanuel Kabongo, consultant et membre du conseil d'administration des GED, qui est déjà en ligne. Professeur Emmanuel Kabongo, bonjour.
Bonjour.
Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question sur les avantages de la dépénalisation des délits de presse en cette journée du 3 mai 2021 où on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous aurons également notre invité pour ce sujet, Maître Charles Mouchizi, spécialiste du droit de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la perception de la taxe chez les usagers des téléphones en RDC. À quoi sert cette taxe? Bien sûr, il s'agit de la taxe RAM. Voilà le menu du magazine Okapi Service de ce jour. Jean-Claude Siala est à la mise en nom de ce numéro, coordonné et réalisé par Tatima Poukou au micro. C'est Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Aujourd'hui, 3 mai 2021, journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, nous allons aborder ces sujets sur les avantages de la dépénalisation du délit de presse en RDC. Et comme vous le savez, le 3 mai de chaque année est une journée qui sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Et en RDC, Reporters sans frontières et son partenaire journaliste en danger, Gédon Sigle, demande au gouvernement de reformer le cadre légal répressif en consacrant notamment la dépénalisation des délits de presse afin que les journalistes puissent exercer leur profession en toute liberté. Quels sont les avantages liés à la dépénalisation des délits de presse en RDC? Pourquoi c'est important de procéder à la réforme de la loi réglementant la liberté de la presse en RDC? Je le disais au sommaire de ce magazine, nous avons déjà en ligne notre premier invité, professeur Emmanuel Kabongo, consultant membre du conseil d'administration des GED, entendez, journaliste en danger. Professeur Emmanuel Kabongo, bonjour.
Bonjour.
Et je rappelle pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez bien intervenir pendant ce magazine, n'hésitez pas à composer les 099 706 63 94 ou encore les 081 890 63 94. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service. Voilà, professeur Emmanuel Kabongo, avant de parler de la dépénalisation de délits de presse en RDC, on aimerait d'abord comprendre ce qu'on entend par délit de presse.
Merci beaucoup. je voudrais en profiter pour saluer tous les journalistes aujourd'hui, en cette journée du 3 mai.
Oui.
Pour leur dire que le travail qu'ils font est un travail formidable, celui de former, d'informer leur peuple. En fait, comme vous le savez, le cerveau humain peut contenir jusqu'à 15 000 milliards d'informations. Mais ces 15 000 milliards d'informations viendront d'où ? 30% c'est plutôt les journalistes. Peut-être 40-50% dans les écoles. Donc, nous avons un très grand travail à faire et je le félicite. Donc, le délit de la presse est défini dans notre loi relative à l'exercice de la presse comme l'infraction à la presse, c'est-à-dire toute infraction commise par la voie de presse. C'est ce qu'on appelle délit de la presse. Voilà.
Mais ça peut être quel genre d'infraction, professeur Manuel Kabongo, juste un exemple.
J'ai toujours dit aux gens que quand je me dispute avec mon épouse chez moi, ou quand je me dispute avec un collègue au bureau,
oui,
dans notre, on se dit imbécile, idiot, ça n'est pas un délit de la presse. Mais quand tout ça, ça passe à la télé, à la radio, dans les journaux, alors ça devient un délit de la presse. Voilà, c'est-à-dire un délit qui est commis par voie de presse. Donc tout événement, tout acte délictueux, tout acte qui porte préjudice, mais qui est commis par la voie publique, par la voie de la presse, c'est-à-dire ça passe dans les journaux, ça passe dans les radios, ça passe à la radio, à la télé, tout ça. Donc c'est ça.
Alors,
voilà ce qu'on appelle un délit de la presse.
Voilà, professeur Manuel Kabongo, vous êtes consulté membre du conseil d'administration de GED, Journalistes en danger. On sait que cette organisation, GED, Journalistes en danger, également Reporters sans frontières, demande au gouvernement de réformer les cadres légaux répressifs en consacrant notamment la dépénalisation des délits de presse afin que les journalistes puissent exercer leur profession en toute liberté. Pourquoi il faut... en principe, dépénaliser le délit de presse, professeur Manuel Kabongo.
Oui, cher ami, depuis une quinzaine d'années,
oui,
Journalistes en danger a entrepris un plaidoyer au niveau national pour la dépénalisation du délit de la presse. C'est-à-dire, le principe fondamental est celui-ci. Nous disons qu'un journaliste, dans l'exercice de sa profession, peut faire des supputations dommageables, peut faire ce qu'on appelle... de diffamation, tout ça, ok. Mais est-ce que cela vaut la peine qu'il soit mis en prison? Est-ce que cela vaut la peine qu'il subisse une peine privative de la liberté? Voilà notre problématique. Donc nous disons, ok, le journaliste, comme tout métier, il y a des médecins qui tuent des femmes sur le lit des malades, il y a des magistrats qui échouent des procès, mais ils ne sont pas mis en prison. Pourquoi est-ce que nous, dans le cadre de notre profession, chaque fois que nous faisons une faute, c'est-à-dire la faute qui est commise par voie de presse, pourquoi cette faute nous amène à ce qu'on appelle une peine privative de la liberté. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons développé un plaidoyer depuis une quinzaine d'années avec GED, avec toutes les grandes associations, n'est-ce pas, de médias, pour dire au gouvernement, pour dire aux gens que le travail que nous faisons est un travail d'intérêt commun, d'intérêt général. Imaginez-vous que si les journalistes ici ne cherchaient pas les informations, ne les traitaient pas, ne les diffusaient pas, votre peuple là, que vous voyez là, ne saura rien de ce qui se passe dans son pays, ne saura rien de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans nos provinces, dans le fond de nos villages. Ça signifie que vous aurez un peuple, n'est-ce pas, immature, qui n'est pas suffisamment formé pour participer à la décision publique. Donc, le travail que fait les journalistes ne cherchent pas d'informations pour les manger. Le journaliste, c'est l'homme le moins payé du Congo, mais il passe tout son temps, toute sa vie, à chercher l'information, c'est-à-dire avoir des faits sociaux significatifs qu'il peut mettre à la disposition de notre public pour l'informer sur le développement, sur la situation qui se passe dans notre pays. Et enfin, ce peuple va devenir, comment dire, n'est-ce pas, mature, formé pour participer à la démocratie, pour comprendre sa place dans la société, pour comprendre sa place dans le processus de développement. Alors, tout ce qui s'y est fait là, Est-ce que ça mérite que, quand une faute est commise, que par exemple, un journaliste en arrive, n'est-ce pas, à une généralisation abusive, à une supputation dommageable, à une prise de position délictueuse, est-ce que ça vaut la peine que cet homme-là, qui consacre sa vie à former et informer, puisse être mis en prison? Donc, quand j'ai dit que nous voulons faire la dépénalisation, c'est-à-dire nous ne disons pas que nous sommes au-dessus de la loi. Nous disons que la loi, nous l'aimons, nous la respectons. Mais nous disons que la loi doit être aussi, comme autant elle traite d'autres corps de métier, comme le médecin, autant elle traite d'autres corps de métier, comme les avocats, autant que d'autres, comme les infirmiers. Pourquoi est-ce que nous nous irons en prison pour des fautes commises dans le cadre de notre travail? Donc c'est ça fondamentalement notre lutte. Et cette lutte-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, c'est pour dire que nous ne nous mettons pas au-dessus de la loi. Nous disons même, c'est même GED que vous voyez là, qui a bien défini les délits que nous défendons. Nous n'allons pas aujourd'hui dire à nos amis que les gens qui commettent, par exemple, des incitations à la haine, des gens qui commettent ce qu'on appelle, des incitations à la révolte, des gens qui veulent détourner nos militaires sur le champ de bataille. Ces gens-là ne font pas des délits de presse. Ça, c'est ce qu'on appelle des infractions des droits communs. Ils doivent en subir, n'est-ce pas, les affres de la loi. Donc, ce que nous voulons protéger ici, c'est les simples délits, c'est-à-dire des supputations dommageables, quelques clameurs, mais des choses comme ça, très simples. Mais pas des crimes contre notre humanité.
Et pour ça, vous avez rappelé, c'est la recherche des informations qui est vraiment la base même de ce métier, de ces professions de journaliste. Mais il faut également reconnaître que l'accès aux sources d'informations pour les journalistes, c'est un problème, c'est sérieux ici en RDC.
Oui, c'est pour cela que dans le cadre même de la dépénalisation du délit de presse, j'ai déjà entrepris justement le travail sur le droit d'accès à l'information, qui est un droit humain. C'est-à-dire ça, ce droit-là, ce n'est pas pour les journalistes seulement, c'est un droit humain. Partout dans tous les pays qui nous entourent ici, Botswana, Afrique du Sud, les gens accèdent à l'information. Et j'ai d'amener ces plaidoyers-là pour dire aux gens que l'information publique, c'est-à-dire l'information qui est issue d'un formatage avec des moyens de l'État, cette information ne doit pas être cachée au public. Et dans tous les pays du monde, cette information-là est disponible pour le public. C'est ainsi que quand nous avons fait ce plaidoyer-là aussi, nous avons même fait une loi, avec l'aide des Africains, de pays africains, nous avons produit une loi. Je crois que la spécificité de l'information, de l'accès à l'information, est qu'on s'est rendu compte dans tous les pays du monde qu'il y a une corrélation directe entre le développement et l'information. Plus un peuple est informé, plus un peuple aborde avec sérénité le développement. Et c'est pour cela que GED s'est battu, on s'est bat. Cette loi a été même amenée jusqu'au niveau du Sénat et qui l'a fait même accepter parce qu'elle a été portée par le sénateur Moïse Nyarugabo, que je salue en passant. Et que c'est au niveau de l'Assemblée nationale que le président Minaku, avec tout ce qu'il représentait comme idéologie rétrograde, ont bloqué cette loi-là. Alors la spécificité de la loi sur l'accès à l'information, c'est de dire que tout homme a droit à être informé. Et la loi l'a dit que si tu as besoin d'une information, tu vas dans l'organisme qui donne l'information, qui doit fournir l'information, c'est-à-dire tout organisme de l'État. Tu dois fournir l'information, vous faites une demande officiellement et on vous disponibilise l'information dans les heures ou les dates qui suivent. Et si cette disponibilisation n'est pas faite, vous avez le droit, n'est-ce pas, d'aller voir un juge pour vous demander pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas donné cette information. Donc c'est ça la garantie, c'est la loi qui va garantir, n'est-ce pas, cette condition de possibilité de mettre devant des cours des tribunaux des gens qui ne veulent pas donner l'information. Donc, comme vous dites, mon cher ami, excusez-moi, je parle de beaucoup de choses, comme tout journaliste, je... comme tout professeur.
Vous l'avez compris de vous-même, oui.
Donc, nous avons, parallèlement à la dépénalisation, nous avons fait, n'est-ce pas, le plaidoyer pour le droit d'accès à l'information.
Bon, pour ça, Emmanuel Kabongo, vous garde encore en ligne. Nous avons notre deuxième invité aussi qui est déjà en ligne, Maître Charles Mouchizi, et qui est spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Maître Charles Mouchizi, bonjour. Maître Charles Mouchizi, vous êtes en ligne? Apparemment, il n'est plus en ligne. J'espère qu'on va le retrouver. Je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Quels sont les avantages de la dépénalisation de délits de presse en RDC? Si vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas à composer les 0 81 890 63 94 ou encore les 0 99 716 63 94.
Radio. Au Capi
Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Au
Capi. Maître Gaston nous appelle de Kinshasa. Bonjour Maître Gaston.
Bonjour Marcel.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces sujets, sur les avantages de la dépénalisation des délits de presse en RDC?
Bon, le problème, c'est plutôt au niveau de la vérité, hein.
Oui.
Que des fois révèlent certains journalistes ou certains organes de presse qui devraient normalement être révélés par les cours et tribunaux. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie un peu de limiter les pouvoirs qu'ont les journalistes par rapport peut-être aux enquêtes qu'ils font dans la plupart des cas, parce que les délits de presse sont souvent liés aux révélations qui peut-être peuvent se confirmer fausses à la fin, mais qui ont été confirmées des fois par les organes de presse ou carrément la partialité qui pouvait prendre un journaliste sur le plan, sur tout le plan du bon fonctionnement de la société. Vous savez qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui défendent même les clercs. Ils se disent de telles tendances et ils les font, soi-disant journalistes. Alors, les délits de presse, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut combattre. Mais si ça devient aussi que lorsque les journalistes font son travail de reportage ou d'une enquête quelconque qu'ils impitent, qu'ils révèlent, surtout, et qui n'est pas révélé, mais surtout mettre à disposition des organes habilités pour traiter du dossier, c'est pas favorisé.
Alors, maître, vous avez une question alors à poser dans le cadre de la dépénalisation du délit de presse en RDC à notre invité.
Non, c'est impossible. Ça peut pas se passer, hein. Ceux qui militent pour ça, la dépénalisation du délit, c'est impossible. C'est comme on dit des erreurs médicales, soit des fautes qu'on pouvait commettre comme.
Mais maître, quand vous dites c'est impossible, je saisis pas très bien. C'est impossible, c'est-à-dire?
Non, c'est une infraction qui restera une infraction. Mais peut-être ce qu'il faut dire, comme j'ai entendu aussi votre invité, hein,
oui.
Le dire, ce qu'il faut dire, faut voir les choses au niveau des problèmes qui se posent dans le cas d'espèce, parce qu'il y a des délits de fait qui se commettront et il faut que ça reste une infraction. Et les ceux qui seront coupables, soit des gens coupables de cette infraction, soit
merci. Voilà, merci Maître Gaston d'avoir appelé de Kinshasa. Notre deuxième invité, Charles Mouchizi, est de nouveau en ligne. Maître Charles Mouchizi, bonjour. Maître Charles Mouchizi, vous êtes en ligne? Décidément, il y a quelques souci avec la ligne de Maître Charles Moshizi. J'espère qu'avant la fin de cette partie du magazine consacrée aux avantages de la dépénalisation de délit de presse en RDC, on va retrouver Charles Moshizi, qui est spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation de délit de presse. Alors, on revient à notre invité, professeur Emmanuel Kabongo. Vous avez suivi Maître Gaston, qui lui, il est catégorique. Il faut pas parler de la dépénalisation de délit de presse. Comment réagissez-vous, professeur Emmanuel Kabongo?
Bien sûr, je pense que nous qui défendons le droit de la presse, nous défendons ce qu'on appelle les droits de la presse. C'est la clé de voûte de tout le droit humain. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir un droit à la parole, un droit à la conscience, un droit à la l'information s'il ne sait pas l'exprimer. C'est nous l'espace d'expression de tous ces droits-là. Nous sommes l'espace clé de voûte de la liberté d'expression, qui est la liberté humaine la plus fondamentale.
Oui.
Alors, c'est pour ça que je comprends ce que Maître a dit. Je ne fais pas ça de cela une discussion personnelle. Mais je voulais seulement lui rappeler que, et comme il a dit lui-même, que les infirmiers commettent quelques erreurs dans leur travail. Au lieu de mettre le mercurochrome, il met un autre produit. Un médecin commet quelques erreurs dans son travail. Mais on ne les a pas vus aller en prison. Donc ce que nous disons, ce n'est plus une infraction que les délits commis par un journaliste n'est plus transformé, tout simplement, n'est plus un remerciement. Ça reste toujours un délit. Mais est-ce que nous n'avons pas d'autres moyens de punir ces délits que d'amener les journalistes en prison? D'autant plus que l'expérience montre que tous les journalistes qui ont été par mégarde, par erreur, mis en prison parce qu'ils ont dit que, M. Honoré Nguanda a menti, parce que je me rappelle encore une journaliste, quand il était au ciel, parce qu'on a dit que vous menti. Je sais qu'on ne va pas se les dire, mais quand on l'a dit, on nous poursuivait dans la ville, on nous mettait en prison pour des choses aussi factices. Donc, c'est ce que nous voulons dire ici, c'est qu'un délit de presse reste un délit de presse. Une supputation dommageable, c'est-à-dire, par exemple, dire que quelqu'un a volé de l'argent et l'écrire, et que ses enfants qui vont à l'école, on leur dit « votre papa est malade », ça porte préjudice. Mais si on voulait commencer par les choses, éviter à ne pas voler. Et si nous le disons, c'est quand ça dit qu'il a volé parce que c'est lui qui l'a, il l'a inventé. Non. Donc ce que nous voulons dire, c'est que toutes ces supputations-là peuvent être traitées autrement par ce qu'on appelle des dommages et intérêts, par un système, par la déontologie. Déjà, nous avons un cadre, de traitement, autant comme les médecins qui ont leur, ordre de médecin, l'ordre des infirmiers. Tout le monde traite ce genre de des choses, c'est-à-dire des erreurs professionnelles, on les traite par la déontologie, dans le cadre déontologique, dans le cadre de l'autorégulation. Et nous avons tous l'ensemble de ces organes, nous avons l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, nous avons le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc tous ces organes-là peuvent traiter tous ces problèmes et punir les journalistes, aller même plus loin que ce que ferait l'État congolais en mettant quelqu'un en prison. L'État congolais peut mettre un journaliste en prison pendant un mois, deux mois, et il en sort là-bas, non pas comme un martyr, mais comme un martyr, comme un héros même. Alors que chez nous, dans l'autorégulation, nous pouvons lui enlever la carte de presse, c'est-à-dire lui enlever toute qualité de journaliste. Et ça ne se fait que chez nous, dans la déontologie, n'est-ce pas, ça ne se fait que chez nous, dans l'autorégulation. Donc ce que nous disons ici, et j'ai déjà toujours dit, est que le délit n'est pas un négatif. Nous les reconnaissons. Et chaque jour ici, nous sommes en train de dire aux journalistes, avec Moshizi, qu'il y a des délits dans notre métier qu'il faut éviter.
Oui, vous avez cité,
mais ces délits-là ne méritent pas d'aller en prison. Donc, ce que nous disons, et je voulais rassurer notre avocat,
oui, Maître Gaston, oui.
Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi, mais qu'on peut le punir par d'un système de transactions transactionnelles, par un système de dommages et intérêts, oui, par la déontologie, par la punition par ses pairs.
Voilà,
par le tribunal des pairs.
Et voilà, professeur Manuel, on va accorder la parole à Jérémy Mwamba. Vous allez intervenir, réagir par rapport au propos du Jérémy. Ensuite, vous allez conclure. Le temps pour nous de retrouver Charles Mouchizi. On espère que finalement, ça marchera. Vous avez d'ailleurs cité son nom. Il est spécialiste du droit de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. On accorde d'abord la parole à Jérémy Mwamba qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à notre invité. Je pense que le sujet, il est pertinent. Vous savez, jusqu'alors, nous avons des inquiétudes parce que jusque-là, le journalisme n'a pas encore trouvé sa place parmi le pouvoir, que nous avons reconnu d'ailleurs, parce que il est dit clairement que c'est le quatrième pouvoir et il doit jouir de son indépendance vis-à-vis d'autres pouvoirs. Mais jusqu'alors, nous sommes en train de voir que le journalisme aujourd'hui dans notre pays est entré encore de subir la pression du politique. Donc, il y a le politique qui se misque tout simplement parce qu'il se retrouve peut-être patron, n'est-ce pas, de ce groupe ou de sa chaîne, et alors, il essaye de bousculer donc le journalisme, et il n'a pas encore retrouvé sa place. Il faut que le journalisme retrouve sa place dans le temps. Il doit retrouver sa place. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsqu'il s'agit des questions politiques ou judiciaires, on se rend compte que les journalistes sont bloqués. Tout simplement parce qu'il y a une disposition réglementaire, n'est-ce pas, ce canal de journalisme est presque inadapté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait que le journalisme est en train de traîner, on les traîne, je ne sais pas, muselé parfois par les politiques. Et il faut que, normalement, que le journalisme retrouve sa place. Mais il y a aussi une chose, lorsqu'on parle de liberté d'expression, ce n'est pas à dire qu'il doit y avoir libertinage. Donc on doit avoir le respect d'expression, oui, etc. Et on doit éviter aussi ce système de coupage que nous sommes en train de voir qui devient de plus en plus une monnaie courante.
Merci.
Donc on ne doit pas monnayer l'information. Les journalistes doivent être sécurisés, même ceux qui se trouvent dans les dangers et qui œuvrent à gauche, à droite, peut-être dans les zones où il y a des guerres, etc. On voit que le journaliste est devenu comme étant la cible. Il est le plus visé. Donc, on doit protéger le journaliste. Il doit faire correctement son travail. Et en plus, il faut qu'on respecte la déontologie et les codes d'éthique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir que le professionnalisme est loin de retrouver sa forme dans le monde du journalisme aujourd'hui. Il faut que tous ces points soient tablés pour que les journalistes retrouvent, n'est-ce pas, sa forme. Et aussi avec le système des réseaux sociaux, ça presque tout détruit. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler en ligne et il se fait que beaucoup de choses sont en train d'être passé à côté, et il fait que tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, il faut que maintenant les journalistes sortent de ce cocon. Il doit travailler correctement, il doit travailler en toute liberté, et tous les pouvoirs, les trois pouvoirs, doivent aussi respecter le journalisme.
Merci.
Les pouvoirs.
Oui. Merci Jérémy Mwamba, excusez-nous de vous couper, mais on a compris l'essentiel de votre pensée, de votre réflexion par rapport à ce métier, de cette profession de journaliste. On va retourner à notre invité Emmanuel Kabongo pour réagir par rapport à vos propos et également conclure. Emmanuel Kabongo.
Merci beaucoup. Je voudrais dire que voilà, c'est ça le pluralisme d'opinions dans une société. Oui. On avait un avocat qui avait ses opinions, voilà Jérémy Mwamba qui a que d'autres opinions. Donc nous disons, et je pense que Jérémy c'est un homme éclairé, parce que le problème qui se pose chez nous est que la loi relative à l'exercice de la liberté de la presse, qui fait du délit de presse un délit, qu'il envoie dans le pénal. Parce que ça, le problème, mon ami, les délits de presse, dans notre loi, les renvoient au délit pénal. C'est-à-dire un délit où on doit mettre quelqu'un en prison. Donc cette loi a été conçue sous la dictature mobutienne. Vous savez que la dictature mobutienne était une dictature réfractaire à l'information, réfractaire à la liberté, réfractaire à la liberté d'expression. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, et nous disons merci beaucoup à Dieu de nous avoir donné comme ministre un journaliste, un grand journaliste et un grand parlementaire, n'est-ce pas, notre ministre actuel. donc c'est qui va faire, qui va nous aider, qui va vraiment prendre en main, en charge, c'est de la dépénalisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne disons pas que les délits de presse ne va pas exister. Il existe, il doit être puni, il doit être même sanctionné.
Oui.
Mais nous disons que la sanction, ce n'est pas seulement la prison.
Exactement.
Que l'expérience de la prison a été, dans notre pays, néfaste. Que des journalistes très médiocres, qui disaient des choses inutiles, inacceptables, ont été mis en prison, comme, et ils sont sortis de là comme des héros, comme des martyrs, et ils se pavanent dans la ville.
Voilà.
Ce n'est pas normal. Et donc, nous disons que des tels journalistes, si on les envoyait à l'autorégulation, c'est-à-dire à l'UNPC, à l'OMEC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel,
il y a des organes.
On les arracherait tellement la carte des presse.
Voilà, il y a des organes donc, spécialisés au sein.
J'ai dit, voilà, nous nous félicitons d'avoir le ministre qui est venu et qui est un homme
merci.
Très connu, connu pour son ouverture d'esprit et son parlementarisme. Éducatif.
Merci.
Il va nous aider à atteindre cet objectif de dépénalisation.
Merci à professeur Emmanuel Kabongo. Nous rappelons que vous êtes consultant et membre du conseil d'administration de GED, Journalistes en danger. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Et professeur de journalisme à l'université.
Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous retrouver prochainement et bonne journée à vous.
À vous aussi.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Quels sont les avantages de la dépénalisation des délits de presse en RDC? On va retrouver notre deuxième invité pour ce sujet. Cette fois-ci, il est bel et bien en ligne. J'espère que ça va marcher pour Maître Charles Mouchizi. Bonjour Maître Charles Mouchizi.
Bonjour.
Enfin, ravi de que ça marche cette fois-ci. On rappelle que vous êtes spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation de délits de presse. Alors, dites-nous Maître, pourquoi il faut dépénaliser le délit de presse?
Il faut dépénaliser les délits de presse tout simplement parce que la qualité de notre système carcéral n'apporte aucune formation, n'apporte aucune reconstruction, aucun amendement aux journalistes qui est généralement envoyé en prison. Et par-delà le journalisme, les journalistes plutôt, c'est depuis 1982 que le monde réfléchit sur l'abolition de la peine de prison. Et il y a une mercuriale de Kengo Wadondo quand il était encore procureur général de la République qui s'intitule « Vers une société sans prison ». Parce qu'on considère non seulement que la prison, si elle devait fonctionner de manière optimale, qu'elle coûte énormément au pays en termes de nutrition, de formation, d'assainissement, de soins de santé, etc., qui doivent être administrés aux détenus, aux prisonniers de manière générale. Mais considérant justement que le pays n'a pas ces moyens-là et que finalement ceux qui sont détenus dans les cachots, dans les prisons de la République démocratique du Congo sont plutôt soumis à une torture, à des traitements inhumains et dégradants et qui ne peuvent plus continuer à avoir lieu de cité dans une société qui veut se construire sur des principes d'état de droit, de justice et de droits humains. Et donc, par-delà le journaliste, il faut voir, je crois, une réforme globale, holistique de notre société qui nous pousse à réfléchir sur des peines alternatives. Mais beaucoup plus d'avantages alors pour le journaliste, considérant la spécificité et l'importance de son rôle dans une société justement qui veut que l'information serve à l'élaboration des politiques publiques adéquates, basées sur des évidences. Donc, davantage pour le journaliste, je crois que la prison n'a pas droit de citer dans notre pays.
Alors, Maître, avant de poursuivre avec vous, on va lire cette réaction qui nous est parvenu sur notre page Facebook, c'est Daniel Lungembo qui nous écrit depuis Kisangani. Il nous écrit ceci: en principe, le journaliste doit être libre. Il doit exercer sa profession en toute indépendance. Si le monde est devenu trop petit, c'est grâce aux informations que nous informent les journalistes. Les grands problèmes, c'est au niveau des journalistes. Quelques radios nous donnent des informations imprécises. Les journalistes doivent savoir qu'en informant, il peut courir après ces informations une poursuite judiciaire à cause des informations qui n'ont pas un fondement. Je demande à l'invité de nous exposer les matières qui présument être ou faire l'objet d'une réforme. Maître Charles Mouchizi, comment réagissez-vous?
Lorsque je parlais tout de suite, je préconisais une réforme plutôt holistique. Mais s'il veut tout de suite, ce qui peut apparaître comme urgent, c'est la réforme d'abord de la loi de 96 pour ce qui est du régime des répressions, des infractions qui sont commises par voie de presse et qui peuvent être sanctionnées très très lourdement. Donc voilà, le journaliste peut exposer même sa vie lorsque il est poursuivi, par exemple, pour des infractions pour lesquelles le législateur prévoit des peines aussi lourdes. Il peut s'agir d'une tentative de démoralisation des troupes au front, par exemple, lorsqu'on commence à parler sans une maîtrise suffisante de la solde ou du paiement des avantages qu'ont les militaires chez nous par rapport à ceux qui aux autres troupes qui viendraient d'autres pays pour les appuyer. J'ai vu à peu près ce genre de débat dans les médias, mais c'est très dangereux lorsqu'on n'a pas une information précise.
Mais justement, maître, quand vous parlez d'informations précises, c'est ça aussi la grande difficulté dans ces métiers. On en a évoqué avec l'invité qui vous a précédé, Manuel Kabongo, qui est consultant et membre du conseil d'administration de JET. L'accès aux sources d'informations, c'est parfois un casse-tête dans ces métiers.
Lorsque je parle d'une réforme holistique, je vois effectivement tout cela.
Oui.
La réforme de la loi de 96 de manière isolée peut ne pas apporter des solutions suffisantes si on ne réforme pas le code pénal lui-même, qui est indifférent à la véracité ou à la fausseté de toute information donnée par n'importe qui sur un fait de société, et particulièrement les journalistes, et donc qui expose tout le monde, et pas seulement les journalistes, à la prison, peu importe que la qualité de l'information, la qualité vraie ou fausse. Mais il faut directement aussi enchaîner. En même temps qu'on réforme la loi de 96 sur les modalités d'exercice de la liberté de la presse, il faut réformer le code pénal pour que les dénonciations soient faites en toute liberté et que la justice puisse apprécier en toute liberté de la véracité ou de la fausseté de l'information qui est donnée. Il faut aussi en même temps parachever la réforme sur le projet de loi d'accès à l'information publique. Parce qu'il ne faut pas que l'autorité publique continue à croire que l'information qu'il a sur la gestion de la chose publique lui appartient en exclusivité.
Oui.
La chose publique appartient à tout le monde, et donc l'information irrelative, c'est un bien de tout le monde, et tout le monde doit pouvoir y accéder. Et c'est l'organisation de modalités pratiques de cet accès à l'information publique qui est en train d'être réclamée aujourd'hui dans le cadre du collectif 24 et d'autres partenaires qui nous appuient. Et la loi aujourd'hui est en train d'avancer du point de vue de son examen au niveau du Parlement. Alors ce que je crains, c'est justement que des réformes parcellaires puissent maintenir le problème tout entier. J'ai entendu tout de suite vanter les mérites de l'actuel ministre en charge des médias. Et j'aimerais que cette question de réforme soit prise de manière intersectorielle. Ça veut dire que le ministre en charge des médias aujourd'hui ne peut pas travailler sans l'accompagnement du ministre en charge de la justice, avec la commission de réforme du droit, la commission nationale de réforme du droit congolais, etc., pour que ensemble nous puissions voir les dispositions qu'il faut élaguer ou qu'il faut réécrire dans le cadre de la consolidation de la liberté d'expression de manière générale,
oui,
de l'accès aux sources publiques de l'information et de la protection des libertés individuelles, notamment en matière d'expression.
Maître, on revient à vous. Nous avons en ligne Benjamin qui nous appelle de Kananga. C'est un confrère journaliste. Benjamin, bonjour.
Bonjour, cher Marcel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les nombreux auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Benjamin.
Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. D'entrée de jeu, je m'en vais pour souhaiter une bonne célébration à tous les professionnels des médias. Et aussi, je m'en vais saluer le président national INPC qui a fait en sorte que les GIFs et les manifestations soient organisées sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Marcel, vraiment comme nous le déplorons, les droits de la population congolaise figurent les droits à l'information. C'est vrai que les journalistes travaillent beaucoup, mais leurs droits sont un peu réduits par les tests légaux régissant le fonctionnement du journalisme. Voilà pourquoi moi je m'en vais pour vous dire que la presse congolaise aujourd'hui est confrontée à plusieurs difficultés. Je vais épingler quelques-unes, parmi lesquelles l'accès à l'information. Parce que pour quand vous avez une information, pour la diffuser, il faut que cette dernière provienne d'une source fiable. Donc c'est la personne de confiance qui peut vous donner cette information-là. Et je vous dis que si à Kinshasa, dans d'autres provinces, l'accès à l'information est facile, mais ici au Kasaï central, c'est vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce que même dans des grandes manifestations, même dans des salles de plénière, parfois certains journalistes sont bousculés, surtout par les hommes politiques. Et nous pensons que cette pratique de faire en tout cas n'est pas bonne. Et vraiment, ça réduit la qualité même du travail qui doit être abattu sur terrain. Voilà pourquoi je rejoins un tout petit peu notre premier invité. Pour dire que normalement, on doit revoir certaines dispositions au niveau de la chambre basse du Parlement pour que certains droits des journalistes soient reconnus sur l'ensemble du territoire national. Et vous savez qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui récolte les informations, qui les traite et qui les diffuse. Et c'est vraiment un grand travail parce que on doit être sûr de ce qu'on diffuse sur les antennes. Mais dès lors que ces informations-là ne proviennent pas d'une source sûre, pourquoi ? Parce que ceux qui disposent ces informations ne veulent pas les donner aux journalistes. Vous comprenez que ça sera une difficulté. Voilà pourquoi certains de nos confrères aujourd'hui font face à certaines difficultés. Certains sont emprisonnés, certains sont emmenés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait preuve de sagesse dans leur traitement des informations. Voilà pourquoi nous pensons que toutes les démarches qui sont en train d'être menées par nos avocats et par le président de l'INPC à travers le pays, vraiment sont à saluer. Et nous pensons qu'avec l'actuel ministre de la Communication et Médias, évidemment journaliste aussi, je pense que ça pourra bien marcher parce que si on n'a pas informé vraiment, le pays est par terre. Voilà au moins ma contribution en rapport avec cette journée de la célébration de la liberté de la presse, monsieur Marcel.
Merci Benjamin d'avoir appelé de Kananga. Nous nous rappelons que vous êtes journaliste. Maître Charles Mouchizi, comment réagissez-vous? Maître Charles, vous êtes en ligne?
Maître Charles, vous êtes en ligne?
Il y a encore des perturbations sur la ligne avec la ligne de Maître Charles Mouchizi. On espère que ça va s'améliorer au niveau de la technique qu'on s'y a fait. On va rapidement chercher à lire sur la page Facebook d'autres réactions par rapport à ces sujets. Sur les avantages de la dépénalisation des délits de presse en RDC, on va lire ce que nous a écrit Kalo Kalondi, depuis Mbujimayi. La presse est un grand partenaire pour tout ce qui doit être pris en considération et être encadré. Mais au Congo, nous constatons un grand dérapage des acteurs de ces domaines qui se substituent en politique en utilisant le micro comme une arme pour tuer n'importe quoi, qui se présentent au canon tout en oubliant toutes les lois du pays. Les journalistes sont devenus comme des souverains, non chaque travail des limites sur les plans de son champ, mais vouloir aujourd'hui ajouter la dépénalisation, c'est le rendre encore pire pour faire n'importe quoi. Regardez au Congo, les gens deviennent journalistes par des intentions politiques, peut-être de l'opposition ou de la majorité. Donc ça, c'est la réaction de Kalo Kalondji par rapport à cette profession de journaliste. Et pour ce qui est de la dépénalisation des délits de presse, on va découvrir une autre réaction sur la page Facebook. C'est Moubaké qui nous écrit depuis Kisangani. Et comme la justice élève la nation, la presse de son côté élève la culture et promeut l'information au bonheur de la population. Il a intérêt à d'être dépénalisé. Il est toujours très indispensable de penser à la réforme, car les choses ne marchent toujours pas de la même façon, même jusqu'aujourd'hui. Les journalistes sont en danger. L'information est parfois biaisée pour des raisons politiques, culturelles, socio-économiques. Voilà, ça, il y a beaucoup de directions qui nous sont parvenues sur la page Facebook au Capi Service par rapport à ces sujets. Nous ne saurons pas lire toutes ces réactions, mais nous rappelons, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui des avantages de la dépénalisation des délits de presse en RDC. Et j'espère qu'on va retrouver d'ici là notre invité, Charles Mouchizi.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je
à ça.
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Nous avons de nouveau Maître Charles Mouchizi en ligne. Maître Charles, vous êtes bien là?
Oui, je suis là, bonjour.
Voilà. On espère que vous aurez l'occasion de conclure avec les 5 minutes qui nous restent pour cette première partie du magazine Okapi Service sur les avantages de la dépénalisation des délits de presse en RDC. Alors, il est temps que la ligne a été coupée, j'ai essayé de lire quelques réactions. Il y a ceux qui estiment que il est bon de faire en sorte de favoriser la liberté de la presse en RDC, mais il y a ceux qui estiment aussi que là, des journalistes, qui sont des fois manipulés, qui font pas leur travail comme il se doit, et dépénaliser, c'est sera encore favoriser ces journalistes qui ne respectent pas la déontologie. Comment réagissez-vous, Maître Charles Mouchizi?
Je crois qu'il faut pas personnaliser le débat. Il faut regarder le journaliste dans un cadre beaucoup plus structuré et non pas comme individu, parce que dans toutes les professions il y a des mauvais, il y a des bons, il y a de bons avocats, il y a de mauvais avocats et il y a des avocats excellents. Il y a de bons et de mauvais dans toutes les professions. Mais ce qui est important et ce qui fait la valeur de la profession, c'est son autorégulation, sa régulation interne, si vous voulez, mais aussi sa régulation sur le plan institutionnel. Et aujourd'hui, ce qui manque fondamentalement pour redonner toute la valeur au journalisme de manière générale dans notre pays, c'est l'affaiblissement de l'autorégulation, le manque de sanctions, de suivi de contrôle, et peut-être même de formation sur les linéaments pour ceux qui ont accédé à la profession sans les avoir. Mais il y a aussi cet affaiblissement très regrettable de l'institution publique qui est en charge de la régulation de médias et qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. Et il y a véritablement un problème en termes d'institutions du secteur. Et c'est peut-être ça qui fait que la sanction n'est pas valorisée. Et du seul fait qu'il y ait cette impunité, permettez-moi le mot, alors il y a une sorte de libertinage pour des jeunes qui accèdent et qui n'ont pas qui n'ont pas la crainte de la sanction et qui n'ont pas les béabas de la matière en termes d'éthique et de déontologie. Vous savez que les textes qui organisent l'éthique et la déontologie du journaliste congolais ne prévoit pas, à vrai dire, des sanctions et des contraintes pour l'observation de ces dispositions, de leurs dispositions. Et c'est à cause de ce manque de sanctions, de cette contrainte qui est du domaine pénal, effectivement, qu'il y a une sorte de relâchement dans le comportement et dans le contenu. Je ne suis pas en train de plaider pour un caractère répressif des textes, mais je suis en train de plaider pour un caractère minimalement contraignant, mais plus particulièrement des structures capables d'imposer la discipline dans le corps, comme il en est dans tous les autres corps professionnels, parce que le journalisme en est un. Et donc, à ce jour, il faut plutôt travailler sur la renaissance, je veux dire parce qu'elle est presque morte, de l'Union nationale de la presse du Congo, mais aussi de l'Observatoire des médias congolais en tant que gardien de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Il faut particulièrement aussi travailler sur la réforme et la revitalisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a la charge de contrôler et de sanctionner positivement ou négativement le contenu des médias. Ça veut dire ce que les médias diffusent, mais donc il a la charge de dire aux médias voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce que vous avez fait et qui a violé tel principe du droit, du domaine. Et donc, c'est ça ce qu'il nous faut aujourd'hui. Mais comme je le disais bien avant, je crois qu'il faut regarder encore toutes ces choses dans une sorte de réforme holistique et amener en fait toutes les initiatives des réformes qui existent à être centralisées au niveau de la Commission nationale de réforme du droit congolais pour que ces textes sortent de là de manière cohérente, harmonisée et sans aucune contradiction les uns les autres. Vous savez par exemple qu'il y a des dispositions dans la loi de 96 qui donnent au ministre de en charge des médias la possibilité de suspendre un média lorsque son contenu viole la loi. Mais les mêmes dispositions se trouvent dans la loi de 2011, la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, au point qu'il y a un chevauchement des compétences et même un conflit de compétences. Dans quelle mesure le ministre apprécie, dans quelle mesure le CESAC apprécie, dans quelle mesure l'un et l'autre ne peut pas contester l'action de l'autre sur un média particulier, selon qu'il est proche du régime ou pas, etc. Ça sont des questions qu'il faut régler de manière cohérente à travers la Commission nationale de réforme du droit congolais. Et donc moi je suggère à ce jour qu'il soit suspendu, qu'il soit mis un bémol sur les examens des textes qui sont en cours aujourd'hui. Oui. Et que tous ces textes de manière globale soient envoyés à la Commission nationale de réforme du droit congolais, qui peut examiner la cohérence de certaines dispositions et faire la relecture de certaines autres qui valent la peine d'être maintenues, tout en éliminant celles qui sont devenues superfétatoires par rapport à l'évolution du contexte. Parce que nous parlons là des textes qui datent de 1996, et dont certaines dispositions déjà peuvent devenir obsolètes et qui sont partie prenante du problème, quoi.
Voilà, maître, on espère vous retrouver prochainement pour parler plus, décortiquer plus cette réforme dont vous estimez qu'elle doit être vraiment globale. Et vous avez même parlé de voir dans quelle mesure, avec l'accompagnement de la justice, essayer de au niveau intersectoriel, de voir comment harmoniser ce travail de journalisme, notamment pour ce qui est de la dépénalisation de délits de presse en RDC. En tout cas, en attendant de vous retrouver dans une prochaine émission, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Charles Mouchizi, nous rappelons que vous êtes spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Au revoir.
Au revoir.